Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission du samedi 6 juin 2026. On se retrouve pour les archives de l'architecte, épisode 8. Et on part immédiatement avec une semaine qui a été mouvementée, c'est peu de le dire, avec les taux qui reviennent au centre du jeu. Le rapport sur l'emploi américain est bon. Le NFP a annoncé plus 172 000 emplois, avec un chômage stable autour de 4,3%. L'économie américaine ralentit moins que prévu. Attention toutefois au risque de l'inflation qui repart, avec une Fed qui semble dans une impasse et qui ne sait toujours pas au cours de 2027 si elle va devoir augmenter les taux ou bien les baisser ou tout simplement ne rien faire. Le dollar également reprend des forces avec une forte hausse des rendements obligataires aux États-Unis et une baisse des actifs de croissance, la tech crypto IA, on va y revenir dans un instant. Tandis que avec cette belle correction donc et un choc important vendredi, on a clôturé au-delà de moins 4% pour le Nasdaq, quasi moins 3 pour le S&P et moins 1,3 pour le Dow Jones. Les semi-conducteurs recule en moyenne de moins 10 à moins 20%, même sur celles qui capitalisaient beaucoup, d'où le fait des excès qui, de temps en temps, viennent à être purgés. Combinaison et anticipation de hausse des taux possibles en 2027, prise de bénéfices sur une euphorie qui aura duré 10 semaines de hausse consécutive. De plus en plus d'interrogations, notamment sur la véritable révolution apportée par l'IA par rapport aux coûts-bénéfices des entreprises. La crypto, toujours sensible, toujours en bear, sortie des ETF Bitcoin Spot très importante, baisse de l'appétit pour le risque, correction du Bitcoin avant même la parution du NFP sur l'emploi. Là aussi, il y a pas mal de spéculations en ce moment sur l'arrivée de SpaceX, un potentiel top, etc. Est-ce que, voilà, on vend des cryptos pour aller all-in au niveau de la société de Elon Musk? Ça paraît être un narratif un petit peu foireux quand même. Le marché continue de pricer BTC comme un actif corrélé au Nasdaq et à la tech, en tout cas lors des baisses, puisqu'on n'avait pas su capitaliser pour BTC et le marché crypto lors de cette hausse frénétique qui a vraiment pris toute la liquidité au niveau de l'IA. Côté Europe, la BCE en ligne de mire, on a une réunion prévue le 11 juin sur fond d'inflation énergétique. Ça continue d'être tendu au niveau géopolitique au Moyen-Orient, le détroit d'Hormuz, les mines et tout ce qui s'ensuit. Les États-Unis n'ont toujours pas trouvé de solution et donc ça continue de préoccuper. Alors pour le moment, ça n'a pas l'air d'avoir un impact si colossal côté States. Par contre, côté européen, on va le sentir de plus en plus passer, avec un rebond et des anticipations inflationnistes des plus importants. Pourquoi tout a chuté vendredi? Le marché était positionné pour un ralentissement économique majeur, des baisses de taux plus proches, une poursuite du rallye IA. En réalité, suite aux bons chiffres du NFP, donc le chômage américain, l'histoire s'inverse immédiatement en induisant obligations vendues, rendement en hausse, tech vendue, valorisation sous pression, crypto vendue qui signifie tout simplement une baisse constante ces derniers trimestres de l'appétit au risque. Et ça peut se discuter puisque oui, la crypto est un peu le bout de chaîne, le maillon, le dernier maillon dans lequel on investit, en tout cas sur ces deux dernières années, quand on a de l'argent, à plus quoi savoir en faire. Et aujourd'hui, malheureusement, l'argent, eh bien, tous les regards sont tournés du côté de l'IA. Avant l'IA, puisque le rallye de l'IA, c'est plutôt voilà, sur les 12-18 derniers mois, on a eu le gold, l'or, à compter de 2023-2024. Ça a commencé un petit peu à se positionner et ensuite, ça a pas mal accéléré. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, eh bien, comme on le répète souvent sur cette chaîne depuis 2022-2023 désormais, le but c'est d'être diversifié un maximum, comme ça quand vous avez des rotations de marché, eh bien vous n'êtes jamais déçu. Et pour rappel, en effet, au-delà du dernier petit papillon sur la spéculation et l'arrivée de l'IPO de SpaceX, et qui voilà, là aussi d'un point de vue purement spéculatif, il y a des bruits de couloir que Elon Musk à terme voudrait merge Tesla avec SpaceX, donc on part dans des théories complètement farfelues en tout cas pour le moment, jusqu'à ce que peut-être un jour ça se réalise. Mais toujours est-il, pour rappel, et ça c'est un rappel qui est factuel, aujourd'hui les fonds et tout ce qui est institutionnel, etc., au niveau des ETF, ils proposaient à leurs clients de mettre 1 à 3% en BTC, en ETF, dans un portefeuille ultra diversifié. Donc pour les particuliers, notamment les crypto-bros, etc., aujourd'hui il y a des personnes qui continuent d'être quasi all-in en crypto, ils ont leurs raisons et tout est respectable, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais pour une personne qui veut une diversification importante, un portefeuille robuste au travers du temps, etc., beaucoup d'études et de calculs à peu près récents ont été réalisés ces 2-3 dernières années. Et en général, on retombe toujours sur une allocation pour une personne crypto-friendly qui irait de 5 à 10% pour pas que ça ait un impact derrière négatif pour le portefeuille si jamais ça se passe pas bien, si jamais il y a un bear market comme actuellement et que voilà, tout le monde est un peu pétrifié diversifier, de pas trop savoir à quel prix on peut racheter, pourquoi, comment, quand. Donc je pense que plus que jamais, il est bon de le rappeler que dans un monde qui devient de plus en plus volatile, cristallisé, exacerbé dans ses mouvements, et on le voit même d'un point de vue humain, ces dernières années nous ont rappelé que, et notamment pour les conflits un petit peu armés au travers de la planète, on vivait dans un monde où on essaie d'aller vers un monde de paix, mais que si depuis les deux dernières guerres mondiales, il n'y a pas eu de conflit généralisé, et notamment peut-être grâce à cette menace qui pèse un peu comme une épée de Damoclès de la bombe atomique, là aujourd'hui on a des conflits qui sont régionalisés, mais c'est pas pour autant que on vit dans un monde de paix, malheureusement. Avant de partir au niveau de l'analyse technique, un VIX qui nous a imprimé plus 40% sur vendredi, donc là aussi on a Wall Street qui commence à jouer un petit peu des castagnettes. Je voulais vous rappeler que vous avez le dernier épisode de notre série « Les boomers ont-ils eu la vie facile ?». On parle du patrimoine, du niveau de vie et on clôturera donc au niveau du cinquième épisode, très certainement avant la fin de ce mois de juin, autour du sujet épineux et brûlant des retraites. Donc je vous invite bien entendu à la consulter et à la commenter si vous ne l'avez pas encore vue. Donc le VIX qui nous annonce un petit peu la couleur la semaine prochaine, ça risque de pas mal bouger encore et toujours, et il est vrai que quand on regarde au niveau des taux, c'est les seules choses qui ont clôturé dans le vert en même temps que le dollar pour cette fin de semaine. Alors, un VIX à 20, 21, 22, c'est pas encore la catastrophe, mais on voit qu'en mars 2026, on avait déjà eu un appel à 35, 36. Et dès lors qu'on rentre dans cette box qui est comprise entre 36 et quasi 100 points, c'est les phases de crack majeur que l'on a connues, que trop bien connues pour ceux qui sont là, notamment depuis 2018, 2020, 2025, avec les tarifs de Trump, où on avait eu une belle descente à DA. Donc c'est quelque chose à surveiller, le VIX, puisque dans les extrêmes, et récemment on n'était pas forcément sur un extrême point bas de volatilité autour de 15, mais ça commençait à devenir préoccupant, ça annonce souvent un retour de volatilité. Vous vous doutez bien que quand on est très bas comme ça et que ça remonte en ayant le miroir inverse du côté des marchés, c'est-à-dire des indices Nasdaq et S&P qui étaient sur des tops, en général la volatilité à venir n'est pas plus positive, mais va être négative. C'est exactement ce qui s'est déroulé ici. Le taux à 20 ans est au-dessus de 5 points. Le 10 ans prend 1,27 et à 4,53. Le 5 ans à plus de points, 4,27. Et le 2 ans pour les États-Unis à 4,14 avec 2,50 de progression. Le DXY, donc le fameux dollar américain qui également reprend du poil de la bête. Alors, c'est pas forcément visible ici, c'est un petit peu dégueulasse, un petit peu tracassé, comme on pourrait dire, du côté de Marseille ou je ne sais où, mais on aurait peut-être une épaule tête-épaule inversée ici d'un point de vue purement technique au niveau du dollar. Si ça vient à se réaliser, on ira très certainement à minima sur la médiane de range ici, rallier les 103 points où nous attend la moyenne mobile 200 pour le DXY, sachant que sous l'ère Trump, on a attaqué à 110 et que sous l'ère Biden juste avant, on était en septembre 2022 avec un dollar à 115 points pour le DXY et on a eu le point bas en janvier 2026 à 95,6. Donc ça aussi, si on a un dollar qui repart, qu'est-ce que ça va donner de notre côté? Ça veut dire des actions cotées en dollars sous pression, les cryptos cotées en dollars sous pression. Par contre, la bonne nouvelle, c'est ça nous permet d'amortir un petit peu les bear markets, entre guillemets, quand ça se passe comme ça, que ça soit du côté crypto ou que ça soit du côté TradFi, avec les indices comme le CW8, le WPEA, etc., qui sont lié au dollar mais coté en euros et où on va un petit peu moins baisser si le dollar est en train de remonter, puisque vous saviez à quel point ces temps-ci l'euro était fort par rapport au dollar. C'est en gros un peu le miroir inversé de ce qu'on vient de voir directement sur le DXY, sur la paire EURUSD. Donc aujourd'hui, si on a un dollar pendant que le reste chute, qui continue de s'apprécier, ça permettra de faire un petit matelas de quelques pourcents. Ça va pas être des dizaines de pourcents, mais c'est quelque chose d'intéressant puisque on avait souffert à l'époque, rappelez-vous, au niveau du MSCI World, qui ne performait pas autant que le S&P, etc., puisqu'on avait des cotations qui, malheureusement, étaient en défaveur avec un euro trop fort. Là, aujourd'hui, on est en train de rééquilibrer cette balance, ce qui fait qu'on tanque un petit peu mieux, et on va voir donc si le dollar continue sa percée par rapport à cette zone des 100 points, qui est vraiment un pivot assez important. Comme on l'a vu donc à l'instant au niveau des chiffres, mais surtout ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous donner, c'est les supports, et à quelle distance se trouve-t-il de là où on travaille pour le S&P 500. C'est très simple, c'est la moyenne mobile mobile 20 qui est pile poil aligné avec la zone de sortie de début 2026 à moins 8,20% par rapport au top actuel. Ça nous ramène autour de 7000 points, c'est 6990 pour être précis. Et pour ceux qui font la tech américaine, eh bien on voit que le ratio de volatilité est toujours deux fois plus important que le S&P pour la tech, avec un retour à la moyenne mobile 20 et pareil le travail de fin 2025, début 2026, qui se trouve aujourd'hui à 26250 points. Et ça nous fait un recul de quasi une quinzaine de pourcents, donc on est en effet sur une volatilité doublée à la hausse par rapport au S&P, mais ça marche également à la baisse. Les métaux précieux, le gold bientôt au contact de la MM50 hebdo, on est à 4327, on aimerait voir les 4200$, là aussi petit à petit ça déroule pour le gold, c'est pas si mal. Les aficionados de ce bullrun disent que c'est une correction dans un bullrun plus grand pour les métaux précieux. Je vous avouerai que j'en sais trop rien, donc exactement de la même façon que le discours était énoncé précédemment par rapport à Bitcoin, aujourd'hui avoir 1, 2, 3, 4, 5, 10% dans un patrimoine généralisé en métaux, mais surtout en or, puisque ça représentera voilà, toujours le métal de référence, pourquoi pas, pour ceux en tout cas qui veulent avoir une diversification des plus importantes. Notre bon vieux Crypto Total qui est désormais logé sur les 0,68 de Fibo à 2080 milliards, 2070 ce matin. On va voir, puisqu'on travaille désormais sous la moyenne mobile 200. La bonne nouvelle, comme je vous disais dans l'émission d'hier, c'est qu'on a deux points qui sont identiques pour l'instant à 2070, tandis que le RSI nous fait un point haut, plus haut que le précédent, et qu'on n'a pas tant de volumes que ça qui sont exécutés. On a des beaux volumes, certes, et pas encore des volumes de capitulation tels qu'on les avait eus sur les points bas, notamment des différents bear market précédents. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'au-delà de surveiller comme ça le spot et de se dire « oui, c'est quand il va se passer tel truc sur tel échangeur, tel machin », c'est plutôt les ETF qui mènent un petit peu la danse, et c'est les flux constants qu'on peut voir apparaître du côté des ETF qui, à des moments clés, ont déployé des 500 millions à 1 milliard par jour en termes de liquidité. Là, on pouvait se dire qu'en effet, on avait une véritable conviction qui continuait de s'alimenter, etc. Et c'est là où c'était assez précurseur ces 15 derniers jours à peu près de ce qui allait arriver là par rapport au marché crypto, puisqu'on avait eu des sorties jusqu'à 1 ou 2 milliards, je crois que c'était la semaine dernière, dans le dernier archive de l'architecte justement, où on disait, ou la semaine d'avant, qu'il y avait des sorties très importantes hein, au niveau des ETF. Donc aujourd'hui, voilà, on a le résultat de tout ça. Vous prenez ce que vous voulez prendre au niveau de ces informations. Je ne dis pas que c'est un indicateur miracle désormais, mais tout ce que j'essaie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est qu'il va falloir surveiller bien plus ces prochaines années, et c'est le cas depuis 2024, les flux institutionnels que les flux des échangeurs particuliers. Inutile de vous dire que du côté des altcoins, ça suit exactement la même musique, donc le total 2 pour l'instant, pas plus, pas moins, peut-être le revoir autour de 700 milliards ici, 720, avec un beau support donc long terme. Pour l'instant, on n'y est pas encore et ça nous ferait une baisse additionnelle pour le market cap des altcoins d'environ une quinzaine de pourcents. Du côté de Bitcoin, eh bien, c'est très simple, hein, on l'a déjà vu ces derniers jours, on est au contact, voire légèrement en dessous pour l'instant de la MM200. C'est très important éventuellement de ne pas la perdre sur cette clôture hebdomadaire. Elle est à 61 800, on travaille sous les 61 000. On a un Fibo en dessous, le 0,618, qui est autour de 57 536 pour être précis. Ensuite, on visera la zone des 50-55 élargie, et si vraiment ça se gâte, je ne sais pas, Michael Saylor qui continue de vendre, un échangeur centralisé qui commence à nous faire des carabistouilles, un DEX type Hyperliquid qui se fait hack par Mythos ou je ne sais quoi, enfin voilà, il peut arriver tellement de choses ces temps-ci pour malheureusement au cours d'un bear market effriter les convictions et les croyances de tout à chacun, qu'il faut être prudent quand on se positionne petit à petit, ce qui fait que le DCA est la moins pire des manières au long terme de faire, et en termes psychologiques et en termes de ce qui peut se passer sur le marché et sur lequel nous n'avons strictement aucun contrôle. Donc si aujourd'hui vous vous dites ok, le BTC est en discount de moins 53% et qu'on peut réaliser à partir de là où nous nous trouvons au maximum, donc en direction des 60, on va dire les 40, c'est-à-dire moins 35% supplémentaire, eh bien vous avez une box de temps où vous pouvez vous fixer 3 mois, 6 mois. Je pense que 6 mois, là, ça paraît pas déconnant par rapport à la phase qu'on est en train de traverser. Certains viseront un an, pourquoi pas, 18 mois, 24 mois. Et comme ça, petit à petit, vous alimentez votre portefeuille dans la répartition que vous, vous avez choisie et dans le pourcentage que vous avez choisi. Je vous ai donné les pourcentages de référence. Il y a des personnes qui préfèrent être aujourd'hui à 100% de leurs capitaux encore en crypto. Je pense quand même qu'en 2026, c'est prendre un risque qui est bien trop important. Mais ça n'est qu'une opinion qui est personnelle et qui est peut-être biaisée par rapport aux personnes qui continuent de voir en Bitcoin et en les crypto-monnaies l'asset du futur et qui sera vraiment adopté de partout demain. Et fondamentalement, l'utopiste de 2018-2019, avant même que toute cette trend de 2020-2021 se lance, est assez d'accord avec ça. Je ne demande que ça, que les cryptos et Bitcoin deviennent eh bien, ce qu'ils ont toujours voulu être. Mais aujourd'hui, on a quand même besoin de composer avec la réalité du monde dans lequel nous évoluons. Et un Ether pour la seconde crypto-monnaie du marché à 1560$. On a cassé immédiatement les deux petites trends ici qui se trouvaient à 1650 et 1800-1850. D'ailleurs, c'est à partir du moment où on a reperdu de façon impulsive les 2150 ici, où on sentait que ça allait se gâter, on est venu chercher la MM200 par-dessous qui a fait vraiment office de plafond et de barrage pur et dur à 2440-2470. On a une belle divergence, mais j'ai peur que sur Ether, ça se transforme en non-divergence, puisque le cours nous fait 2 points plus bas et le RSI pour l'instant est aligné autour de cette zone de survente. Et les oscillateurs type MACD sont plutôt sur une fin de volatilité, une fin de contraction. Donc là, pareil, je vois pas mal de gens se dire « Ok, c'est sûr, on va aller à 1000$, etc. par la suite du côté de Ether. » Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais de la même façon que les personnes qui attendront les 40 000 ad vitam du côté de Bitcoin, si ça vient à ne pas arriver, eh bien, ils resteront sur le banc de touche. Ils vont devoir repayer plus tard, plus haut, à la hâte, en n'ayant plus du tout de plan par rapport à ce qui s'en était matérialisé du fait qu'ils s'étaient dit « Ok, j'appuie sur le bouton à tel prix, etc. » On en revient exactement à ce qu'on disait à l'instant, le DCA semble entre guillemets la moins pire des bonnes solutions. Inutile de vous dire que du côté des minières, Treasury Company, Coinbase et consorts, on recule pour les Hive, Bitfarm, Hut 8 de moins 14 à moins 12, donc tous ceux qui ont pivoté un petit peu IA se font punir finalement, tandis que MicroStrategy, lui, ne recule que de moins 7%. On va revenir donc sur le bas de sa box autour de 100$. Je pense là aussi que le marché va continuer de surveiller MicroStrategy autour de cette zone. Coinbase 152 au contact du petit support ici qu'il a travaillé depuis août 2024. Si jamais ça lâche, eh bien on aura la zone suivante qui se trouve autour de 120 pour Coinbase et la zone encore d'après 80$. Ce qui fait en termes de pourcentage moins 20% pour le premier support, moins 46%, moins 47% pour le support de dernier recours quelque part. Si on avait un Bitcoin qui venait à reculer jusqu'à 40 000$, et finalement vous pouvez faire exactement le même type de ratio entre Bitcoin et Ether. Si Bitcoin va à 50 000, Ether va à 1400. Si Bitcoin va à 40 000, Ether ira très certainement autour de cette zone des 1000$. Côté action américaine, il n'y a pas grand-chose auquel se raccrocher. Johnson & Johnson, Netflix, 82$. Sur support, moyenne mobile 200 semaine autour de 70$. Je continuerai de renforcer Netflix si on revient sur la MM200. Pour l'instant, voilà, on est quand même sur une phase un peu ici dégradée et de distribution. Ceci étant dit, ce qui s'était passé entre février 2026, 75 et le petit rallye ici autour de 110$, c'était loin d'être anecdotique, peut-être un dead cat bounce, et on voit de nouveau cette fameuse MM50 qui fait office de barrage alors qu'on avait littéralement surfé dessus entre la 20 et la 50 au cours de la phase ascensionnelle. Donc ça, c'est quelque chose, c'est voilà le textbook de ce que vous pouvez remarquer également lors des différents bullruns du Bitcoin. À partir du moment où on perd la MM50 en hebdomadaire, en général, ça y est, on peut clôturer les positions, prendre un an de vacances bien mérité, et c'est exactement malheureusement ce qui s'est passé à nouveau sur ce cycle. Nvidia qui clôture à moins 6,20. Alors je passe à Nvidia, bien que ça soit pas fondamentalement la plus intéressante à chart, mais pour se servir de cette action comme de benchmark par rapport à tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'IA. Donc vous voyez que 6% par rapport à la hausse complètement folle qu'a connu le titre, c'est peanuts. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un premier appel à surveiller. Ça fait 3 semaines que ça baisse et on va voir donc si c'est une simple correction dans une trend haussière ultra soutenue qui va perdurer, ou si tel que c'est matérialisé déjà au niveau des oscillateurs du MACD, petit à petit, on est en train de faire des rebonds et des amplitudes qui sont moindres, avec un cours qui lui a continué à toute berzingue. Donc derrière, on a une contraction, quand on regarde comme ça en termes de volatilité, qui tend petit à petit à se resserrer dans un triangle. Et vu qu'on est très haut de nouveau, je ne vous refais pas le laïus que j'ai fait tout à l'heure, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse, qu'on ait une belle correction bien marquée par la suite, plutôt que de nouveau ressortir de ce triangle et aller péter tous les scores sur des espoirs qui aujourd'hui, malheureusement pour le domaine, petit à petit, ils sont en train d'ouvrir les yeux, les différents participants à cette industrie, et se dire que c'était peut-être pas l'Eldorado escompté, en tout cas pour le court terme. Bien entendu, le long terme, ça devrait être payant au niveau de l'IA, mais il y a différents grands noms qui aujourd'hui, même du côté de Claude, avec ce fameux Mythos et tout ça, se disent « Ok les gars, ça va trop vite, trop fort, on risque d'être complètement dépassé par notre création et notre créature, entre guillemets, donc ça serait bien qu'on ralentisse un petit peu, qu'on se pose tous autour d'une table et qu'on évite de se retrouver avec tous les systèmes d'information mondiaux qui petit à petit tombent comme des dominos, que ça soit via des failles 0D ou des failles pures et dures, donc récentes. Du côté des actions françaises, on a Hermès qui continue de nous faire un petit paquet ici sous le support des 1660 €, amené à 1620. Il faut surveiller le secteur du luxe puisque ça fait pas mal de temps également que ça mijote au niveau de LVMH, donc ça me paraît pas déconnant là par rapport au support long terme. Je vous avouerai qu'à l'époque, je me suis fait mal perso sur LVMH. J'avais regardé un petit peu de loin les réseaux sociaux qui disaient ça y est, on part sur la lune, etc. Ça s'arrêtera jamais. Et donc, c'est qu'une fois que je m'y suis intéressé vraiment que j'ai réalisé que j'avais pas forcément acheté proche du top, mais voilà, j'avais une position qui était assez inconfortable. J'ai pris une légère perte tôt, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable aussi d'avoir cette vivacité d'esprit de me dire ok, là, t'es rentré pour des mauvaises raisons, t'avais pas bien analysé ton dossier, t'es pas bien rentré. Donc, j'avais coupé tout LVMH, j'en ai plus aucune en portefeuille. Par contre, là aujourd'hui, de ce qui est en train de se mettre en place, je pense que je vais commencer à re-rentrer. Ça représente toujours pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais ici, ça me paraît être du bon sens. Le BNB qui est dans le vert ce matin et qui est un de ceux qui, au niveau des altcoins, eh bien, déçoit le moins pour l'instant. Il a quand même reculé en hebdomadaire de moins 23%, mais on a la MM200 qui nous attend à 521 $ pour le BNB. Si jamais vraiment ça se gâtait et qu'on perd la MM200, le vrai support suivant, il est plutôt autour de 350 $. Donc c'est là où, sur les fins de bear market et notamment des actifs, pas comme le BNB, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont déjà à moins 90, voire moins 99%, c'est toujours assez difficile de se positionner bon endroit, bon moment, de défendre un quelconque DCA sur les alts. Alors certes, si vous avez un prix de revient qui est extrêmement bas et très proche du prix du marché aujourd'hui, vous pouvez vous dire que si l'actif fait x2, x3, voilà, vous récupérerez vos petits, etc. Malheureusement, la plupart du temps, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est des gens qui hold un bag du cycle précédent et qui ont un prix de revient moyen qui est beaucoup trop haut. Donc voilà, essayez d'être honnête avec vous-même. Si vraiment vous avez un shitcoin qui traîne dans votre portefeuille, essayez de temps en temps, eh bien, de passer à autre chose et vous verrez que psychologiquement également, ça se passera bien mieux. On a l'ensemble des alts, c'est inutile d'aller voir AAV à 60 $ ou d'aller en voir beaucoup. Voilà, on est peut-être en train de revenir sur une trend long terme ici, entre 55 et 60 $, mais ça reste une dégradation qui est assez folle. Au cycle précédent, on se disait, ok, ça fait partie des actifs qui seront portés, tout comme Chainlink, tout comme ceux qui avaient dégoté Taobit, Tensor, NIR, etc. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les altcoins et de se dire que de 2 ans en 2 ans, de 4 ans en 4 ans, la plupart malheureusement sont voués à l'échec et à pas aller à zéro. Mais voilà, petit à petit, c'est des capitalisations qui finissent de s'effriter sur elles-mêmes et finalement, il n'y a plus que les bagholders de long terme justement pour y croire. Voilà, faites très attention si vous vous positionnez sur des trucs comme ça. De même que Hyperliquid, c'est le diamant brut brillant de ces deux dernières années. On a eu une belle trend, notamment au cours du bear market, c'est à noter. On voit qu'au niveau des volumes, ici, en tout cas sur le graphique de KuCoin, c'est pas trop ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ils s'en échangent beaucoup moins sur KuCoin que directement de façon décentralisée. La première zone d'intérêt, pour ma part, sera autour de 40 $ pour Hyperliquid. Et le deuxième point of interest, comme la série qui emporte le nom, d'ailleurs, je ne peux que vous la recommander, excellente différentes séries sera d'observer si on commence pas justement à avoir des lièvres qui sortent d'un point de vue des failles de la DeFi, puisque pour rappel, hein, on l'avait vu là aussi la semaine dernière, je pense, au niveau du récap, on avait le CEO, donc le fondateur de Open Zeppelin, qui sont considérés comme les pontes de la recherche de failles et de cybersécurité liées à la DeFi et à la crypto, la blockchain, qui disait tout simplement en substance que le risque désormais n'en valait plus la chandelle par rapport au protocole de DeFi. Il y avait d'autres personnes, notamment comme Marc, qui du côté de X avait commenté en disant que la plupart du temps, les problèmes de DeFi, c'était des risques de paramétrage, donc c'est aussi tout à fait vrai. Mais voilà, vous savez à quel point j'ai pas forcément confiance en ce que pourrait devenir l'IA traumatisée par notamment des films comme Matrix, qu'on ne connaît que trop bien. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai envie de jouer mon va-tout sur les certitudes de certaines personnes, ou même peut-être que le CEO de Open Zeppelin est beaucoup trop pessimiste par rapport au domaine. Mais quand il y a un risque et quand on a des personnes aussi calées en cybersécurité qui lancent des warnings, je pense qu'il est bon de les entendre et de prendre un pas de recul le temps que tout ça vienne à tout simplement être traité, ou que de la même façon que pour le quantique, par la suite, on ait des blockchains qui soient quantique-proof. On clôture avec Nintendo qui, peut-être d'ailleurs loin de son support et de sa MM220, est en train petit à petit de nous faire un petit quelque chose en termes de points bas. On est en train de travailler des points de 2021 pour Nintendo autour de 7$ et on a un ATH à 14. Alors ça fait pas des amplitudes qui sont complètement folles. Est-ce que c'est une boîte sur laquelle ça vaut le coup de se pencher? En tout cas, depuis février 2026, on a énormément de titres qui sont exécutés ici. Donc toujours pareil. L'Asie, j'ai un ETF emerging, etc. Ça me va très bien pour pas mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est un domaine petit à petit que j'essaie de comprendre, d'appréhender. Et je trouve que c'est tout aussi intéressant que de s'intéresser à la bourse américaine qui aujourd'hui attire tous les regards, toutes les convoitises. Et quand on voit à quel point de simples petits résultats peuvent faire décaler des super capitalisations de 5, 10, 20%. Voilà, je pense que si on n'est pas au top de cette bulle, la prochaine grosse poussée pourra nous y amener, et potentiellement, si vraiment il y avait quelque chose qui venait à coincer un petit peu cette belle mécanique, eh bien peut-être qu'entre l'été et l'automne 2026, on aura enfin notre moins 10, moins 15, moins 20 du côté de la bourse traditionnelle, ce qui permettra en simultané éventuellement, au plus tôt ça arrive, au plus tôt sera le mieux, d'avoir le point bas du bottom crypto des 4 ans. Donc j'espère vivement pour nous que si point bas et si descente il doit y avoir, ça se fera au cours de cet été pour par la suite poser les bases d'un nouveau cycle fin d'année 2026, début 2027. Et on sera parti et en lice vers 2030. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouvera au cours de la semaine prochaine dès qu'il y aura matière à dire quoi que ce soit. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait une à deux émissions par semaine. Mais s'il y a besoin d'en faire plus, on en fera plus. Et quand il n'y a pas grand-chose à dire, on n'en fera qu'une seule par semaine pour faire ce grand récap et débrief de l'actualité financière le samedi, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, je pense, vous plaît plutôt pas mal au vu des retours que vous nous en faites. Très bon week-end et à plus tard. Ciao, ciao.